La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Hermont. Michel Hermont au talent multiple. Qu'est-ce qu'il est ? Il est chanteur. Il est souvent chanteur, mais il est également comédien. Et je crois qu'il a été, et vraisemblablement qu'il est encore, metteur en scène. En tant que chanteur, on l'a entendu récemment dans Le Voyage d'hiver de Franz Schubert. C'était les 17 et 18 mai derniers. Et en tant que comédien à multicarte, on peut dire, on pourra l'entendre dans Phèdre le 1er juin. C'est l'invité aujourd'hui de la danse des mots. Bonjour Michel Hermont.
Bonjour.
Merci bien de venir nous présenter votre actualité d'il y a quelques jours pour en parler et puis celle qu'on va entendre dans quelques jours pour en parler également. Alors, commençons par ce qui est déjà passé depuis peu. Les 17 et 18, vous chantiez Schubert, donc Le Voyage d'hiver. Oui. Des leaders sur des textes du poète Wilhelm Müller, oui. Que vous connaissez depuis longtemps. Est-ce que vous dites de l'allemand devant un public francophone comme vous diriez du français ? Est-ce que vous avez conscience que votre auditoire peut comprendre, peut ne pas comprendre ? Est-ce que ça change votre rapport à la diction ?
Dans l'absolu, oui. C'est pas le fait qu'ils peuvent pas comprendre ou qu'ils peuvent comprendre, mais c'est que de toute façon...
D'abord, c'est pas votre langue maternelle.
Non, mais il s'agit évidemment de croire qu'on est allemand quand on chante en allemand. Il y a un petit décalage dans la tête à faire, parce qu'il faut évidemment être complètement dans la langue. Donc,
vous avez fait beaucoup d'allemand ? Vous parlez l'allemand ?
Je parle pas vraiment l'allemand, mais je le pratique beaucoup. J'en ai fait depuis l'enfance, j'en ai fait au lycée. Oui, c'est une langue qui m'est assez familière. Je peux pas prétendre que je la parle, parce que j'ai d'abord jamais l'occasion de la parler. Mais je la prononce. Disons.
Oui, alors ça aussi, on va y venir dans un instant. Mais revenons à ce que vous venez de nous dire. Il faut prétendre qu'on est allemand. C'est-à-dire que vous vous immergez dans cette langue pour la dire, pour la faire entendre.
Bien sûr. Oui, non, ça, de ce côté-là, j'ai travaillé quand même beaucoup au cours des années avec des Allemands qui ont été, Dieu merci, impitoyables, qui m'ont vraiment... qui ont chassé les moindres choses. Et donc, je pense que j'ai une sonorité allemande qui est pas trop mauvaise. Mais bien sûr, il faut se mettre dans la, c'est comme quand on parle en anglais, hein.
Oui, bien sûr.
On change évidemment de mentalité.
C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer qu'on est dans un univers germanophone et qu'on est baigné par la musique de cette langue.
Oui.
Parce qu'il y a une musique de la langue à l'évidence.
Et Schubert est un des grands compositeurs de cette musique, de cette langue. C'est un des grands metteurs en musique de l'allemand.
Et vous sentez justement une adéquation entre le phrasé musical et la phonologie de la langue. Je veux dire que Schubert écrit pour l'allemand de façon très différente dont Fauré ou Debussy ou Chausson ont pu écrire pour le français ou en anglais. C'est
pas vous savez, en général, les grands compositeurs, quand ils composent sur une langue donnée, c'est extraordinairement juste par rapport à la langue.
C'est vrai, mais Mozart a composé pour l'italien aussi bien que pour l'allemand.
Oui, cela dit, si vous parlez de Mozart, il y a une mélodie de Mozart en français qui est par contre d'une prosodie extrêmement douteuse. Donc ça arrive, mais je pense pas qu'il parlait bien français.
Oui,
mais si vous voulez pour vous répondre, je pense que l'allemand en plus c'est une langue où vraiment on peut peut-être le dire de beaucoup de langues, mais la pensée est vraiment dans les mots, dans la plastique des mots, je dirais presque. Il y a un côté, c'est une langue très concrète, hein, c'est une langue beaucoup plus physique que le français par exemple.
Et très souvent, lorsqu'on entend des chanteurs, en particulier dans le domaine lyrique, on s'intéresse à l'articulation, à la façon qu'ils ont de se faire comprendre. Pour vous aussi, c'est très important. Il faut que vous soyez intelligible, disons.
Absolument. Intelligible, et en plus, il faut que les mots aient leur vrai sens. Ils sont très chargés, en général, en allemand, et spécialement dans ce genre de cycle de leader très, très sombre et très dramatique.
Alors, vous chantez en allemand, vous chantez très souvent en français, et vous avez très souvent chanté les poètes en français.
Oui.
Par exemple, Baudelaire, Rimbaud, souvent sur des mélodies de Léo Ferré.
Oui.
Est-ce que le geste du chanteur, là encore, est radicalement différent quand vous chantez en allemand ou quand vous chantez en français, qui est votre langue maternelle ?
Je dirais pas que c'est le geste qui est différent. C'est, disons que ce sont les muscles qu'on utilise sont pas les mêmes. C'est très spécial. Il y a vraiment quand on travaille très sérieusement, par exemple sur l'allemand, on se rend compte qu'il y a des muscles qu'il faut solliciter et
qu'il faut muscler justement.
Absolument, ouais. Parce qu'on les a pas en français.
Ouais.
Donc c'est surtout ça qui compte, je dirais, parce que là, autrement, au point de vue technique, c'est la même chose. Dieu merci, c'est la même chose.
Est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce que c'est vrai quand même que les phonèmes ne sont pas...
Oui, bien sûr. Oui. La basse technique, oui, parce que la basse technique, elle est physique. Hein, c'est le souffle, c'est le bas du corps, c'est le diaphragme. Ça, on en a besoin pour toutes les langues. Et non, c'est plutôt une histoire de, je dirais, de musculature intérieure, comme ça, que chaque langue différente demande.
Oui. Et est-ce que c'est très différent de votre travail en tant que comédien? Alors, bien sûr, l'allure de la phrase n'est pas la même quand vous la chantez ou quand vous la parlez. Déjà, quand vous la parlez, c'est vous qui en décidez. Vous parlez
oui,
plus ou moins vite. Vous avez un débit dont vous êtes maître.
Bien
alors
sûr.
Que quand vous chantez, et en particulier comme c'est le cas pour des leaders, quand vous chantez avec un piano qui vous accompagne, c'est pas vous qui décidez du tempo.
Non.
Au départ, vous pouvez dire on
au
va
départ,
prendre tel
sûr.
Tempo. Mais
au
une
départ,
fois que c'est décidé, c'est décidé.
Oui, et c'est-à-dire que bon, c'est le grand problème, la grande difficulté de cette musique, c'est qu'il faut être extrêmement rigoureux et en même temps être libre à l'intérieur. Il est évident qu'il faut pas qu'on sente toute cette contrainte. Il faut que ça respire.
Est-ce qu'on passe facilement du parler au chanter? Je parle pas exactement de ce qu'on appelle le parler-chanter, qui a été très illustré par la musique allemande du XXe siècle, par exemple chez Kurt Weill avec Brecht,
oui,
etc.
Oui, oui.
Mais je parle par exemple du mélodrame, ces petites pièces où on alterne entre le chant et la parole.
En principe, dans le mélodrame, on ne fait que parler. Il n'y a pas de chant dans le mélodrame. Donc c'est une récitation à installer musicalement sur un accompagnement. Mais le problème de la voix chantée se pose pas dans le mélodrame. Mais moi, j'ai fait souvent des expériences. D'ailleurs, je crois qu'un des trucs de Schumann que vous avez passé ou que vous allez passer, c'est il y a ça. Et comme j'ai fait pas mal de théâtre et que j'ai fait aussi, justement, vous parlez de Weill, j'ai fait l'opéra de Katsu beaucoup. Donc, je suis un peu habitué à ça, de parler du parler au chanter sur scène. C'est un peu.
Il y a un plaisir, il y a une volupté particulière.
Mais
parce que le plaisir de l'écoute est extraordinairement spécifique. Moi, j'adore le parler chanter. Je ne l'écoute pas comme du théâtre ou comme
de
l'opéra.
Ah oui, bien sûr. Je sais pas. J'ai fait des choses où. Effectivement, on passait de l'un à l'autre. Je crois que ce sont deux voix différentes. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas la même voix. C'est pas la même émission de voix. On entend autre chose, quoi. C'est-à-dire, j'ai une voix beaucoup plus claire quand je parle et quand je me mets à chanter, ça sombre tout de suite.
Oui, oui. Bien, bien, vous évoquiez Michel Hermon, vous évoquiez Schumann. On va tout de suite vous entendre dans Schumann.
Geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier vor auf der kläglichen Kunde, der eine sprach, wie sehr wird mir, wie brennt meine Arme. Der andere sprach, das Lied ist aus. Auch ich müsst mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage mein Messer verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, ein Bild. Wenn ich jetzt sterben werde, so mich nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du als Erd mir legen. Die Pinte klieb mir in die Hand und kehrt mir um den Degen.
J'avais réellement besoin de m'égayer un peu et que je m'endors et trop éloigné de la mer pour manger des huîtres. En outre, je ne voulais pas goûter à la volaille de Sa Majesté le Roi de Prusse. Je me décidais à faire un voyage à Paris, la patrie du champagne et de la Marseillaise.
Dans les deux grenadiers de Schumann, une évocation de la Marseillaise, oui, qui fait subitement d'ailleurs moduler du mineur en majeur. Il y a un effet dramatique absolument formidable. C'est vous qu'on entend, bien sûr, Michel Hermon. Vous chantez et vous jouez la comédie. Et en particulier, je sais que le 1er juin, vous allez proposer un Phèdre. Alors, oui, quand on se dit Phèdre, on se dit bon, il met en scène, ou bien alors il va jouer peut-être Thésée, peut-être autre chose. Vous avez joué d'ailleurs
Thésée. J'ai joué Thésée et j'ai mis en scène.
Dans une version mise en scène par vous, oui, à l'Odéon, oui, dans le courant des années 70.
70.
Et là, vous présentez Phèdre tout seul.
Oui, je le dis. Ça, je ne le lis pas, je ne le joue pas, je le dis.
Alors, c'est une troisième possibilité. Vous ne le lisez pas parce que vous connaissez le texte par cœur.
Oui, je le réapprends.
Donc, il y a quelque chose qui tient de la mise en voix. Mais en même temps, vous ne le jouez pas. Enfin, si, vous le jouez probablement d'une certaine façon, oui, mais vous faites tous les personnages.
Oui, absolument. J'ai fait quelques coupures aussi. Je ne fais pas absolument tout le texte. J'ai monté la pièce donc il y a très longtemps. Et il se trouve que, pour la petite histoire, nous avons eu des dissensions avec l'actrice qui jouait le rôle de Phèdre. Et un soir où on devait jouer le spectacle à Nice, elle n'est pas venue. Donc il n'était absolument pas question, les directeurs du théâtre, c'est au Palais de la Méditerranée, à Nice, ont dit, il n'est pas question que vous ne jouiez pas, donc il faut jouer. Donc je suis allé à sa place jouer Phèdre.
Et vous aviez
joué le rôle, voilà.
Et est-ce qu'à l'époque, vous teniez aussi le rôle de Thésée ou vous étiez uniquement metteur en scène?
Non, je l'avais joué, mais comme j'ai joué un autre spectacle au théâtre, je m'étais fait remplacer dans Thésée, donc il y avait un autre Thésée.
Et donc vous êtes arrivé en Phèdre?
Absolument, j'ai appelé mes acteurs et je leur ai dit, il faut que vous me trouviez un sac de patates, n'importe quoi que je puisse mettre en arrivant. Je suis arrivé à 8h du soir et le spectacle était à 9h ou un truc comme ça. On a eu le temps vaguement de voir 3 ou 4 mouvements. Bon, j'étais le metteur en scène, donc je connaissais la mise en scène par cœur. C'était quand même pas une mise en scène très simple, c'était très physique. Et il y avait beaucoup de choses à faire.
Et alors, réaction déjà du théâtre et du directeur du théâtre?
Alors, le directeur du théâtre a été très... pas du tout encourageant au départ. Il était à côté de moi pendant que j'enfilais cette robe de sac de patates. Et il me disait, mais on n'a jamais vu ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, très encourageant. Et puis... Ça s'est passé comme ça s'est passé. Je vous avouerai franchement que je m'en souviens pas très bien parce que j'étais quand même dans un état second. Mais apparemment, ça s'est très bien passé puisqu'à la fin du spectacle, le directeur est venu vous rejouer demain.
Ah donc, il voulait carrément
évincer
l'actrice
qui n'était
pas venue.
Oui, oui, c'est ça. Mais il voulait qu'on rejoue le lendemain, mais c'était pas possible parce que j'étais sur un autre spectacle qu'on devait commencer à jouer très très vite, un Édouard II de Marlowe. Et j'avais promis à mon metteur en scène de rentrer sitôt la soirée faite. Donc je l'ai fait qu'une fois, mais le directeur finalement me disait, mais vous voulez pas le refaire demain?
Et alors, est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez pris la décision en disant, bon bah, c'est moi qui vais le faire?
Ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'étais vraiment la seule personne qui pouvait le faire, parce qu'encore une fois, la mise en scène était compliquée. Enfin, c'était un travail de plus d'un an, quand même.
Oui, on jouait depuis longtemps. Vous êtes dit, bon bah, je vais monter sur scène, je vais faire Phèdre.
Je vais faire Phèdre. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai annoncé au public. C'est-à-dire, je suis rentré.
Oui, bien sûr, mais avant même de voir le public, c'est à vous que vous l'annoncez.
C'est vous qui prenez cette
décision. Oui. Vous êtes sûr de connaître le texte suffisamment bien?
Tout à fait. Je l'ai entièrement revu dans l'avion et je le sais par cœur. Il y a pas de problème. Par contre, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai passé ma nuit à courir après l'actrice qui était introuvable.
Ouais.
Et laquelle actrice que j'ai revue quelques années après m'a dit, avoue que je t'ai quand même fait un beau cadeau.
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est vrai.
Ben oui, d'une certaine façon. Donc vous jouez.
Donc voilà le lien, si vous voulez.
Et comment vous vous préparez dans les quelques heures, puisque ça se passe extrêmement rapidement, comment est-ce que vous vous préparez à incarner Phèdre?
Vous voulez dire à cette fois-là?
Ben oui, cette fois-là.
Ah, je me prépare. Enfin,
vous préparez pas?
Non, je vous dis, je prends l'avion, j'arrive à...
Je saute sur scène, puis on verra.
J'arrive à, je crois, 7h30, 8h. Je suis arrivé à moins d'une heure avant le début, donc... Non, j'y suis allé, fallait y aller, j'y suis allé. Mais bon, j'avais évidemment une histoire avec Phèdre. Si j'ai monté Phèdre, c'est aussi quand même beaucoup à cause de Phèdre elle-même. Donc, voilà.
Bon. Alors, vous êtes donc comédien, Michel Hermon, mais on le disait tout à l'heure, vous êtes chanteur, vous chantez du Schumann, du Schubert, parfois du Brahms, mais vous chantez aussi du Baudelaire, du Rimbaud, souvent sur des musiques
différentes. J'ai chanté Piaf aussi beaucoup.
Et Piaf, absolument, avec un spectacle que vous donniez sur le répertoire de Piaf. Oui. Et plus récemment, je vous ai entendu dans Ferré, d'ailleurs.
Ferré beaucoup. Et puis j'ai fait aussi un spectacle sur Marlène Dietrich.
Oui. Alors, on va écouter justement un extrait de Michel Hermon, qui chante Baudelaire sur une musique de Léo Ferré.
Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin. Qu'en peut tenir son tombeau, ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorais d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure. Elle y vint, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis: sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin, un linceul. Cette crapule invulnérable comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaînes et d'ossements.
Le vin de l'assassin, Charles Baudelaire, Léo Ferré et vous, Michel Hermon. Alors, revenons à Phèdre, puisque vous le présentez notamment le 1er juin, et que c'est une pièce que vous connaissez parce que vous l'avez jouée, on vient d'en parler, vous l'avez mise en scène. Vous avez des souvenirs très précis de cette mise en scène, donc à l'Odéon en 74. Est-ce qu'il en reste des traces dans la façon dont vous proposez la lecture de Phèdre, là?
C'est marrant, oui, je me le demande aussi, mais je pense que oui, parce que j'ai repensé, j'y ai vraiment repensé là avant de commencer à cette mise en scène. Oui, je pense qu'il y aura des traces, oui. Par exemple, dans le personnage des nonnes, qui est un personnage qui était absolument...
Qui est donc la suivante de Phèdre.
Oui, et qui dans ma mise en scène était dédoublée. D'abord, elle était jouée par un homme et une femme cousus dans la même robe et qui étaient des tortionnaires. Donc ça se passait dans une sorte de geôle où Phèdre était retenue captive. Et le but étant de la faire parler à tout prix, donc elle était torturée carrément par les...
Donc Phèdre est sadisée par ça ou par ses suivantes. Mm-hmm.
Et puis le roi, évidemment, qui fait croire qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort, qui est parti depuis 6 mois et qui regarde tout ça de loin, qui revient juste au moment où il faut revenir. Enfin, oui, pour moi, la pièce est vraiment le vrai thème de la pièce, c'est la succession du roi, c'est le père et le fils. Phèdre, elle est déjà... elle a un extraordinaire rôle à jouer, à dire. Mais au point de vue de l'action, elle est déjà finie, elle est déjà...
Alors c'est intéressant, cet aspect de dualité que vous évoquez, Michel Hermon, en particulier à propos du personnage d'Enon que vous scindez en deux, puisque c'est aussi un drame de la dualité, Phèdre, puisque Phèdre a épousé le père et qu'elle aime le fils.
Oui, oui. Et encore une fois, disons qu'il y avait aussi une chose qui était importante, et je pense qu'on devrait le sentir, c'est que l'inceste dont on parle sans arrêt, puisque c'est un mot qui revient je ne sais pas combien de fois dans la pièce, elle se prétend incestueuse et on lui dit qu'elle est incestueuse, alors que tout le monde sait très bien qu'elle n'a aucun lien de parenté avec cet enfant qu'elle aime. Donc il n'y a pas d'inceste. L'inceste veut vraiment dire parricide et régicide, qui est en fait ce que probablement rêve le fils, et ce dont le père va l'empêcher en l'exposant au monstre qui va le dévorer. Ça le permet de rester au pouvoir.
Michel Hermon, puisque vous proposez Phèdre en incarnant successivement tous les rôles, est-ce que vous accepteriez de nous en livrer un petit extrait, un fragment dire... Qu'est-ce que vous allez nous lire?
Je vais vous lire un passage du début, la première scène entre Hénon et Phèdre.
Où Phèdre se déclare.
Voilà. Je ne vous le lis pas depuis le début, ça sera
Non, mais un petit fragment, ça sera très
elle
bien.
Elle vient de dire le nom pour lequel on l'a véritablement torturée, harassée pour qu'elle le crache enfin, Hippolyte.
Hippolyte qui est donc le fils de Thésée.
Le fils de Thésée, donc le fils du roi, le fils du père, et voilà. Et évidemment, pour qui Phèdre est absolument une créature taboue. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race. Voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine office d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main cherchait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Hénon. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée. Par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains soupirs cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler.
Merci beaucoup, Michel Hermon, pour cette tirade qui est quand même parmi les plus fameuses du théâtre français, avec des vers qui sont des proverbes, je le vis, je rougis, je pâlis, c'est Vénus tout entière. Un mot encore, puisqu'il nous reste peu de temps, pour nous dire comment vous vous débrouillez avec ces personnages et avec votre voix. Est-ce que vous avez une voix, une tessiture pour chaque personnage, un débit? Est-ce qu'il y a une espèce de silhouette vocale qui est différente quand c'est Hénon, quand c'est Thésée, quand c'est Hippolyte, quand c'est Phèdre?
Je dirais probablement. Pour l'instant, c'est pas encore très très conscient tout ça, mais je pense que oui, je pense. Je le fais pas vraiment exprès. J'essaie de faire surgir ce qui surgit. Et après, je constate qu'effectivement la voix change, mais je décide pas. Je vais changer la voix. C'est dans le texte.
Ce qui veut dire qu'il y a un côté. Il y a un côté très intuitif dans votre travail.
Ah, complètement.
Vous réfléchissez après coup, vous voulez dire.
C'est-à-dire, je pense que j'ai le culot de le faire ou l'inconscience de le faire, et puis je me lance, et puis je travaille sur ça, je crois. Enfin, surtout là-dedans, je crois que ça va être ça beaucoup.
Et alors, comment vous situez-vous dans ce rythme général? est-ce qu'il y a une respiration, un silence d'une scène à l'autre, ou même d'une voix à l'autre? Comment est-ce que vous êtes soucieux de la compréhension de l'auditoire, qui comprenne que là c'est Phèdre et que là c'est Ennone, oui. Que là c'est Phèdre, que là c'est Hippolyte? C'est oui. Pas si évident.
Disons
vous êtes
que
seul.
Je pense surtout à ça. Je pense qu'il faut que ce soit clair, et en le disant, je pense à la clarté. Je pense qu'il ne faut pas se laisser trop embarquer dans quelque chose qui serait trop justement de l'ordre du théâtre, mais qu'il faut rester dans une sorte de récitation très concentrée, j'espère un peu mystérieuse, pour faire entendre tout ça. Mais la clarté des personnages, évidemment, ça j'y tiens beaucoup. Donc je pense que automatiquement, je change de voix et surtout de dynamique, parce que c'est pas la même dynamique suivant les rôles.
Aucune didascalie, j'imagine. Vous ne donnez pas d'indication
d'un
personnage
hein.
À l'autre.
Racine,
vous auriez pu.
J'ai vu qu'il y a une oui. Didascalie, en fait, c'est elle s'assit.
Oui.
C'est tout.
Ouais.
Elle s'assit.
Alors, Phèdre, c'est vous et les autres aussi, Michel Hermont, mais où est-ce que ça se passe, tout ça? Ce n'est pas dans un théâtre conventionnel, le
non,
premier
ça
juin.
Se passe dans un salon, chez Madame Roselyne Carbonel, le salon de Roselyne, qui est rue Jean-Pierre Timbaud. Où je
donc c'est
chante
à Paris,
déjà
depuis, dans le 11e arrondissement,
dans le centre de
Paris, oui.
Et voilà, c'est un endroit très très sympathique qui accueille beaucoup de gens, beaucoup d'artistes et de musiciens et de. Il y a aussi des lectures de poésie chez elle parce que c'est une grande adepte.
Mais
de
j'imagine
la poésie.
Que ça change beaucoup de choses aussi le fait de ne pas être sur la scène d'un théâtre et d'être dans un salon.
Ah oui oui.
Déjà spatialement, vous êtes au même niveau que les spectateurs ou bien il y a une petite scène, vous êtes surélevé ou pas?
Il y a ça. Des fois, je pense que pour Phèdre, je vais être au même niveau. Je vais peut-être disposer l'espace un peu autrement pour avoir les gens autour. Je pense que je vais essayer d'utiliser de la lumière de flammes seulement, de chandelles, de bougies.
Et les gens sont très prêts.
Les gens sont très très prêts. Mais c'est un endroit que je connais bien. Encore une fois, j'y ai chanté Le Voyage d'hiver, entre autres, Le Chant du Cygne aussi de Schubert, et puis des Brahms et du Ferré. Donc je connais bien l'endroit et c'est un endroit très très sympathique parce qu'en plus les gens reviennent quoi. C'est souvent les mêmes gens qui reviennent. Et...
Est-ce que le trac est différent quand on est dans un salon, c'est-à-dire dans une pièce avec des gens qui sont dans la même pièce que vous et qu'on est chez quelqu'un? Il y a peut-être des tableaux au mur, il y a un piano dans
un coin,
puisque
sûr,
parfois vous chantez, etc. Vous êtes dans un intérieur et non pas dans cette vacuité qui est celle de la scène.
Oui, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est la lumière. C'est qu'on n'a pas la lumière de la scène, parce que c'est la lumière qui vous isole, surtout sur scène en fait.
Et qui isole le public.
Et qui isole le public, et qui crée un espace dans lequel on est comme dans une bulle, quoi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de... Mais c'est autre chose, c'est excitant aussi, c'est une autre difficulté, mais... Je sais pas, j'ai pas encore fait ce genre de choses, c'est-à-dire dire un texte de théâtre comme ça, je l'ai encore jamais fait dans un salon, donc je sais pas. J'ai d'ailleurs jamais fait ailleurs non plus.
C'est donc d'autant plus intéressant d'aller vous écouter, Michel Hermont, le 1er juin chez Roselyne, donc à Paris, si on peut, rue
oui.
Jean-Pierre Timbaud, et si on veut y aller, on peut vous écrire donc
eh ben voilà,
un courriel.
Il faut m'écrire à ma
michel-hermont@orange.fr et on voit s'il reste de la place.
Exactement, et je réponds.
Eh bien, on n'a qu'à faire ça. Merci encore d'avoir été dans la danse des mots et de nous avoir donné en primeur donc un extrait de cette scène de l'aveu de Phèdre dans cette émission qui est proposée par le Réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.
Merci beaucoup. Thank you.